exactement, avec la rediffusion du programme de Patrice Gélinet. Nouvelle édition de 2000 ans d'histoire. Cette nuit, c'est la deuxième des trois émissions spéciales sur les États-Unis, la guerre de sécession.
Contre elle-même ne peut pas survivre. Abraham Lincoln.
Indépendance en 1776, les Américains avaient fait naître un nouvel État, mais ils n'avaient pas encore créé une nation. Pendant les 80 premières années de leur histoire, le fossé s'était même tant creusé entre les Américains du Nord et ceux du Sud que personne ne fut surpris lorsqu'en 1861 se déclencha la guerre de sécession. Au contraire, des deux côtés, au Nord comme au Sud, on est parti se battre avec enthousiasme, sûr de son droit et persuadé de vaincre en quelques semaines, sans savoir que commençait une des guerres les plus longues et les plus violentes de l'histoire. Une guerre civile de 4 ans qui tua plus d'Américains que l'ensemble des conflits dans lesquels se sont engagés les États-Unis. 600 000 morts, deux fois plus que pendant la Deuxième Guerre mondiale et 10 fois plus que les pertes américaines au Vietnam. Mais ce carnage, en 1861, personne ne pouvait encore l'imaginer.
Valides ne pensent qu'à s'engager, ils y vont sur le champ. Moi aussi, j'y vais.
Tous les hommes valides ?
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans une émission que vous connaissez bien, puisque vous venez souvent nous y parler des États-Unis. Alors, on vient d'entendre, évidemment, un extrait d'Autant en emporte le vent, et on voit que quand cette guerre commence, en 1861, la guerre de sécession, eh bien, les soldats du Sud, ceux du Nord aussi sans doute, sont persuadés qu'ils vont gagner, que ce sera court. Ça fait un peu penser à 14-18. Hein. On part pour une guerre fraîche et joyeuse, alors que ce sera un carnage.
Ce sera un carnage, mais il faut se rappeler que les États du Sud sont constitués par des hommes et des femmes qui ont une culture d'abord de la violence, mais qui ont aussi une culture de la guerre. Ce sont des chevaliers. Ils considèrent en somme que l'exercice militaire fait partie de leur tradition. Et il faut reconnaître que dans la tradition militaire des États-Unis, les officiers du Sud sont infiniment plus nombreux que ceux du Nord. Mmh. Les meilleurs généraux sont dans le Sud, ils ne sont pas dans le Nord. Et d'un autre côté, le Sud pense qu'avec cette arme formidable qu'est le coton, il parviendra à séduire la communauté internationale. Donc il a à la fois la force militaire, la force diplomatique. Il va gagner, c'est sûr.
Alors, cette guerre a été violente, André Caspi, parce que c'était une guerre civile, ce sont généralement les plus violentes, entre deux Amériques, mais totalement différentes, hein, le Nord et le Sud. C'est vrai qu'il n'y a pas de nation américaine à proprement parler, encore, vous le dites dans un livre que j'évoquerai tout à l'heure, on est plus virginien ou new-yorkais qu'on est américain, et on ne se ressemble absolument pas entre le Nord et le Sud.
Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas. Depuis la création des États-Unis, l'expression États-Unis est suivie du pluriel en anglais. On dit « United States are ». Et après la guerre de sécession, on l'a fait suivre du singulier, ce qui est le cas aujourd'hui, « The United States is ». Et cela veut dire en fait que pendant ces 80 premières années, le Sud et le Nord ont évolué séparément. Le Nord est devenu de plus en plus industriel, sur une base commerciale.
90% de l'industrie américaine.
Et le Sud est devenu le grand royaume du coton. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un domaine agricole. Mais je dirais qu'il y a deux points de convergence. Le premier, c'est que le Sud vend sa matière première au nord. L'industrie textile du nord vit en grande partie avec le coton du sud. Et d'autre part, il y a l'ouest qui est en train de passer dans l'obédience des États-Unis. Or, l'ouest, c'est une zone de conflit entre le nord et le sud. Est-ce que l'ouest va devenir le soutien du nord ou est-ce que l'ouest va devenir le soutien du sud? Donc, la guerre de sécession, c'est aussi ce combat économique qui oppose deux régions complètement différentes l'une de l'autre.
Économique et commerciale, puisqu'effectivement, fabricants du coton, ayant des plantations, étant agricoles, le Sud veut effectivement le libre-échange qui lui permet d'acheter à l'Europe des produits manufacturés bon marché, alors que le Nord, qui a une industrie naissante, veut se protéger. Mais alors, autre conséquence des deux économies différentes, l'une n'a pas besoin de l'esclavage et l'autre, oui, les plantations du Sud en ont besoin et veulent évidemment le conserver.
Alors, l'esclavage, en effet, constitue un élément de divergence qui est particulièrement profond. Dans le Sud, on pense qu'il est indispensable de faire appel à la main-d'œuvre servile, parce qu'il n'y a pas assez de bras pour travailler le sol, parce que le climat est difficile, parce qu'au fond, c'est une tradition. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de propriétaires du Sud n'ont pas d'esclaves, ou que certains en ont deux, trois, et ce ne sont pas toujours de grands propriétaires d'esclaves, comme on peut les lire ou comme on peut les voir dans Autant n'importe le vent. Et d'autre part, dans le Nord, la main-d'œuvre est essentiellement formée par des immigrants, mais il y a aussi des tenants de l'esclavage. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on ne peut pas faire une séparation nette entre le Nord, qui serait abolitionniste, et le Sud, qui serait esclavagiste. On trouve des partisans d'esclavage au Nord, et on trouve quelques partisans de l'abolition dans le Sud. En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, les tensions s'exacerbent, au point que la possibilité d'un compromis entre deux régions aussi opposées l'une que l'autre, l'une à l'autre, cette possibilité de compromis disparaît. Et c'est cela, au fond, qui est à l'origine de la guerre de sécession.
Surtout lorsqu'en 1860, André Caspi est donc élu le premier président républicain, le parti républicain a été créé peu de temps avant, Abraham Lincoln. Mais alors, en vous lisant, je suis absolument surpris parce que, à l'évidence, il n'aime pas l'esclavage, mais il n'est pas question pour lui de l'abolir. Je lis, par exemple, de Lincoln, je n'ai jamais été en faveur de l'égalité politique et sociale de la race noire et de la race blanche, je n'ai jamais voulu que les noirs deviennent jurés ou électeurs, qu'il leur soit permis de se marier avec des blancs, je désire tout autant qu'un autre que la race blanche détienne la position supérieure. C'est très surprenant, ce président dont on dit, parce que c'est lui qu'il voulait abolir l'esclavage, ne l'était pas du tout lorsque la guerre se déclenche, lorsqu'il est élu.
C'est-à-dire qu'en fait, le Parti républicain a été créé en 1854. Le premier candidat républicain aux élections présidentielles était un général d'origine française, le général Frémont, qui faisait campagne d'ailleurs en utilisant le refrain de la Marseillaise sur lequel il avait mis des paroles américaines. Or, le général Frémont défendait à la fois le protectionnisme et l'abolitionnisme. Lincoln, deuxième candidat aux élections présidentielles que présente le Parti républicain, Lincoln, lui, a recentré son parti. C'est-à-dire qu'au fond, il n'est pas aussi extrémiste que Frémont et il veut essayer, je ne dis pas de réunir tous les Américains, c'est impossible, mais en tout cas, d'être élu sur une base minimale. Et c'est pour cela que Lincoln, qui est hostile personnellement à l'esclavage, considère qu'on ne peut pas abolir l'esclavage dès maintenant, qu'il faut aller à une allure progressive. L'essentiel pour lui, et c'est cela qu'il faut bien noter, l'essentiel pour lui, c'est le maintien de l'union. L'union entre les États. Éviter la dissolution des États-Unis.
En tout cas, il n'y arrive pas puisque son élection en novembre 1860 provoque la sécession de la Caroline du Sud, puis de 10 autres États du Sud qui se séparent du gouvernement fédéral et de ceux qu'au Sud, on appelle les Yankees.
On a pas assez d'être insulté par ces fripouilles de Yankees. Il est temps de leur faire comprendre que nous gardons nos esclaves, que ça leur plaise ou non. L'État de Géorgie avait formellement le droit de se séparer de l'Union.
Il a raison.
Le Sud doit défendre sa cause par les armes. Il n'y a pas 36 moyens.
La guerre, parfaitement, la guerre.
Les Yankees ne sont pas prêts. Nous le sommes.
Il n'y aura même pas de bataille. Un seul combat suffira pour les écraser.
Êtes-vous de notre avis, M. Butler?
Je crains qu'il ne soit difficile de gagner une guerre avec des mots.
Que signifie, monsieur?
Uniquement, monsieur Hamilton, qu'il n'y a aucune fabrique de canons dans le Sud. Il possède des fabriques, des charbonnages, des chantiers navals et une flotte pour nous bloquer dans nos ports et nous réduire à la famine. Tout ce que nous avons, c'est du coton, des esclaves et de l'arrogance.
Alors, à part Butler, André Caspi, au Sud, on est persuadé qu'on va battre le Nord parce qu'on est beaucoup plus fort que lui. Or, les rapports de force sont plutôt en faveur du Nord.
C'est-à-dire qu'en fait, si le Sud était arrivé a gagné la guerre très rapidement, personne n'aurait été surpris. Mais la guerre est plus longue que prévu, c'est-à-dire que le Nord dispose de forces économiques, de forces humaines, de forces militaires qui lui permettent de tenir plus longtemps.
Il a 9 millions, il faut rappeler qu'il y a 9 millions d'habitants au Sud, 23 millions au Nord.
Oui, déjà, il y a un gros mais il faut quand même reconnaître aussi que tous ces millions ne combattent pas. Mais il faut dire que les armées du Sud sont organisées de telle manière qu'elles devraient remporter la victoire le plus rapidement possible. Et surtout, pour qu'elles remportent la victoire, il faudrait que la Confédération, c'est-à-dire ce nouvel État qui vient de se créer avec les 11 États du Sud, qui a élu un président, qui a une constitution des États-Unis, qui en somme fonctionne exactement comme n'importe quel État dans la communauté internationale, il faudrait que cet État soit reconnu par d'autres États, et tout particulièrement par le Royaume-Uni, puisque les relations économiques entre l'Angleterre et les États du Sud sont étroites, l'Angleterre achète le coton, il faudrait que le Sud soit également reconnu par la France de Napoléon III, donc le combat est à la fois intérieur, entre le Nord et le Sud, mais il est aussi international pour la reconnaissance de la Confédération.
Le Sud, il faut le rappeler, avait effectivement un président, Jefferson Davis, une capitale pendant 4 ans, Richmond, une autre capitale que Washington. Washington,
Un drapeau.
Et le Sud contre lequel les armées du Nord vont s'engager.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la guerre de sécession.
Et c'était une chanson nordiste, When Johnny Comes Marching Home, une chanson du Nord, mais le Nord au début subit un certain nombre de défaites, André Caspi, avec les premières victoires du commandant en chef sudiste, le général Lee.
Mesdames et messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, une glorieuse nouvelle, un nouveau triomphe pour notre magnifique et valeureuse armée. Général Lee tailler l'ennemi en pièces et refouler les Yankees et leur armée au-delà des frontières de notre Virginie.
Alors c'est ça, André Caspi, au début, effectivement, défaite du Nord, malgré la puissance économique du Nord.
La défaite du Nord au début est tout à fait normale, compte tenu de ce que je rappelais tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que les opérations se jouent sur 3 fronts. Les environs de Washington. Il s'agit pour le Sud de prendre la capitale fédérale et il s'agit pour les nordistes de repousser l'assaut des sudistes. Deuxième front, l'Ouest, et tout particulièrement le Mississippi, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les nordistes essayent de prendre à revers les sudistes pour remporter la victoire. Et puis enfin, il y a une guerre maritime, puisque les sudistes essayent de franchir le blocus que les nordistes ont instauré. Red Butler est un excellent exemple de force de blocus, parce que forcer le blocus, cela veut dire rétablir le commerce entre le Sud et l'Europe, et par conséquent, assurer la vitalité du royaume du coton, donc la prolongation de la guerre et la victoire du Sud.
Alors, cela dit, fin 62, effectivement, l'étoile du Sud, si je puis dire, est en train de se ternir. Il commence à y avoir des défaites, des batailles extrêmement violentes. Il y a la prise de la Nouvelle-Orléans, qui ouvre effectivement les portes du Mississippi, qui sépare 3 États du Sud du reste de la Confédération. opérations. Il y a la bataille d'Antietam en 62, de Fredericksburg en décembre 62 et puis de Gettysburg, surtout peut-être la plus connue, en juillet 63. Là, 50 000, une des pertes de 50 000 hommes sur 150 000 hommes engagés, ça devient vraiment un carnage.
Oui, il faut aller voir le champ de bataille de Gettysburg pour bien comprendre. Ce champ de bataille est d'ailleurs magnifiquement entretenu aujourd'hui encore, ce qui prouve l'actualité de la guerre de sécession. Mais les sudistes, aussi bien que les nordistes, se battent suivant une stratégie héritée de Napoléon. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le choc frontal. On lance de grosses masses de soldats contre d'autres masses de soldats. Et il est évident que les pertes sont particulièrement élevées, parce que, à la différence de ce qui se passait du temps de Napoléon, les armes sont infiniment plus efficaces entre 1861 et 1865 qu'au début du 19e siècle. Alors le résultat de l'opération, c'est que les morts se comptent par dizaines de milliers dans une seule bataille, et qu'au total, en effet, il y a pour cette nation qui compte 31 millions et demi d'habitants, nord et sud, inclus, il y a un nombre de tués extraordinaire qui avoisine 650 000. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus pratiquement que ce que la France a compté de morts pendant la guerre de 14-18, proportionnellement bien sûr.
Une violence qui surprend évidemment tous ceux qui la subissent. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, au nord comme au sud, les soldats n'en peuvent plus de cette guerre meurtrière qui n'en finit pas de s'enliser. La bataille de Fredericksburg, par exemple, en décembre 1862, est une des pires défaites pour l'armée de l'Union qui perd là 13 000 hommes. Sur le champ de bataille, raconte un soldat chargé de ramasser les morts, on voyait ici un corps sans tête, là un autre qui n'avait plus de jambes, un peu plus loin une tête et des jambes, mais plus de tronc. Des fragments d'obus plantés dans les cerveaux et des membres gonflés, criblés de balles. Après la bataille de l'Antietam, un carnage aussi, puisqu'elle fait plus de morts que le débarquement du 6 juin 1944, c'est dire, un soldat nordiste raconte la peur au combat. On disait que l'armée brûlait du désir de marcher sur l'ennemi. La vérité, dit-il, c'est que quand les balles s'enfoncent dans les troncs d'arbres et que des projectiles fracassent les crânes comme des coquilles d'œufs, l'envie dévorante qui brûle le cœur de tout homme est surtout de se trouver ailleurs. Et pourtant, quand l'ordre est donné de monter à l'assaut, son régiment n'hésite pas. En l'espace d'une seconde, dit-il, l'air était tout plein des sifflements des balles et du fracas de la mitraille. La tension mentale était si forte qu'à cet instant, je vis le paysage tout entier se teindre légèrement de rouge. Un officier décrit l'espèce de démence qui les pousse à ce moment-là. Les hommes, dit-il, chargent leurs fusils et tirent avec une fureur démoniaque. Ils hurlent et crient de manière hystérique. Alors, comme si ça ne suffisait pas, en plus des combats, les deux armées subissent les maladies, la faim et le froid. Le sol était gelé et dur comme la pierre, raconte un soldat nordiste. Nos soldats étaient pauvrement vêtus, et beaucoup, oui, beaucoup marchaient pieds nus, même la nature semblait nous combattre. Et les soldats sudistes ne connaissent pas un meilleur sort. Une femme se souvient de ces hommes venus lui demander à manger. Quand je dis qu'ils avaient faim, je ne rends absolument pas l'impression de terrible famine qui émanait de leurs regards, profondément enfoncés dans les orbites. « Ça fait 6 semaines que je marche et que je me bats sans arrêt, disait-il. J'ai rien mangé à part des pommes pas mûres et du maïs vert. » Il paraissait tout à fait incroyable qu'ils puissent seulement marcher ou se battre. Un officier nordiste s'étonne pourtant du courage de ces soldats du Sud. « Cela passe l'imagination, dit-il. Impossible d'expliquer comment ces êtres repoussants de saleté, malades, affamés et misérables deviennent de tels héros sur un champ de bataille. Et dans le Sud, la famine touche durement aussi les civils. En avril 1863, par exemple, une fermière de Caroline du Nord écrit à son gouverneur. « Une foule de nous autres, pauvres femmes, sommes allées à Greenboro hier pour trouver à manger, car nous n'avions pas une bouchée de viande ou de pain chez nous. Et qu'ont-ils fait, sinon de nous mettre en prison? J'ai 6 enfants et mon mari est à l'armée. Alors, quoi faire ?»
C'est étonnant, André Caspi, on dirait vraiment une description de la guerre de 14-18. C'était une guerre totale, c'est peut-être la première guerre moderne au fond.
C'est tout à fait la première guerre moderne et elle a beaucoup de points de comparaison avec la Grande Guerre. D'abord, du point de vue des armements. On commence à utiliser des mitrailleuses. On découvre ce que Pétain a découvert en 1917, c'est que le feu tue et qu'il tue un très grand nombre de combattants. Les services de santé sont très rudimentaires. Et en même temps, c'est aussi une guerre moderne par les progrès qui sont faits dans le service des transports. C'est le moment où les chemins de fer acheminent des milliers de soldats.
Le télégraphe qui joue un grand rôle.
Le télégraphe joue un grand rôle en même temps que le chemin de fer. Or, dans ce domaine-là, le Nord dispose d'une énorme supériorité sur le Sud. C'est en ce sens que plus la guerre dure et plus le Nord se trouve dans une situation avantageuse par rapport au Sud. Mais il est évident que lorsqu'on étudie cette guerre, on s'aperçoit en effet que c'est une guerre terriblement, mortellement Moderne.
Moderne parce qu'elle concerne aussi les populations civiles.
Les Yankees arrivent.
Le grand madame, nos troupes battent en retraite.
Vous quittez Atlanta, vous nous livrez aux Yankees?
Nous ne vous livrons pas, mais nous évacuons. Nous voulons éviter que Sherman nous coupe la retraite vers le sud et nous fasse tous prisonniers.
Que vais-je devenir?
Tâchez de gagner le sud au plus vite, madame. Je vous quitte, excusez-moi, madame. Ils ne vont pas laisser grand-chose aux Yankees. Il faut nous presser avant que le feu atteigne les wagons de munitions.
Toujours un extrait d'Autant en emporte le vent, ça c'est l'offensive du général Sherman dont les troupes étaient redoutées et qui a coupé le sud en deux à partir de 64.
Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait là, on est dans la perspective que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la deuxième partie du front, c'est le front de l'ouest. Sherman est parti depuis le Mississippi et puis il essaye de rejoindre l'océan Atlantique, il traverse la Géorgie et c'est là que cette marche de Sherman ressemble à une guerre de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il détruit tout sur son passage. Le but de l'opération, au fond, c'est non seulement de prendre les sudistes à revers, mais c'est aussi de contraindre les sudistes à signer l'arrêt des combats en attaquant à la fois les armées et la population civile. En ce sens, c'est véritablement une guerre totale. Et la marche de Sherman vers l'océan a laissé des souvenirs terribles dans les mentalités collectives du Sud. Songez par exemple qu'aujourd'hui encore, en l'an 2000, il y a des sudistes qui arborent le drapeau confédéré pour marquer leur hostilité à la capitale fédérale. C'est aujourd'hui considéré comme un acte de droite ou d'extrême droite. Mais il n'empêche que plus de 130 ans après, ce souvenir reste particulièrement fort.
Et puis cette marche de Sherman aboutit bien entendu au 9 avril 1865, date de la rencontre d'Appomattox qui met fin à la guerre de sécession.
Regardez cette scène, ma chère. Cette histoire que vous vivez. Vous pourrez raconter à vos petits-enfants qu'une nuit, vous avez vu disparaître le Sud.
La Scarlett d'antan n'existe plus. Tout a été à l'encontre de ce que j'espérais, Ashley.
Ah, les jours heureux, les chaudes soirées au crépuscule, le rire sonore des nègres revenant des labours, l'insouciance et la sérénité de cette époque.
C'est le passé, Ashley.
C'est le passé, c'est la fin d'un monde, André Caspi aussi. Hein.
C'est la fin d'un monde, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, la signature de la capitulation d'Appomattox en avril 1865 met fin à la guerre. Et du coup, l'esclavage est aboli par le 13e amendement à la Constitution.
Janvier 1865, avant même d'ailleurs la fin de la guerre.
Il faut reconstruire l'Union. C'est-à-dire qu'il faut réintégrer les États sécessionnistes dans l'Union. Alors cela prend du temps, cela entraîne des remous dans la vie politique, mais cela se fait. C'est-à-dire que dans les années 70, on peut dire que la reconstruction est achevée.
Et cette reconstruction... 1870.
Dans les années 1870, bien sûr. Alors, remarquez, dans un certain sens, si l'on tient compte de la condition des Noirs, on pourrait dire qu'il a fallu 100 ans de plus.
Oui, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, le droit de vote en 1870, c'est la ségrégation.
C'est la ségrégation qui est peu à peu instauré dans l'ensemble du pays et reconnu officiellement en 1896. Donc cela veut dire que petit à petit, les États du Sud sont réintégrés, connaissent un nouveau développement économique, mais ils n'auront jamais la puissance, la place qu'ils occupaient auparavant dans l'Union. En ce sens, c'est la fin d'un monde. Mais c'est aussi le début d'un nouveau monde, puisque la nation américaine se constitue d'une manière plus solide et que, n'oubliez pas, ces anciens combattants de la guerre de sécession ont survécu, quand ils n'ont pas été tués sur les champs de bataille, jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui veut dire que pendant 40 ans, le souvenir de la guerre de sécession, c'est pas simplement un souvenir livresque, c'est un souvenir humain, on les voit. On les entend.
Il y a de quoi 600 000 morts, dont le dernier, si on peut dire, faut pas l'oublier, c'est Lincoln, qui a été assassiné 5 jours à peine après, effectivement, la fin de la guerre. Bon, vous le disiez, André Caspi, elle a laissé des traces, encore aujourd'hui des traces importantes.
Oui, je pense que les traces sont toujours très importantes parce que c'est une guerre civile. Et ces 650 000 morts, ce sont des morts américains, tués par d'autres Américains. Ça veut dire au fond que c'est là vraiment une déchirure, un traumatisme qui a atteint les États-Unis. Alors bien sûr, depuis 1865, les États-Unis ont changé. Il y a beaucoup plus d'immigrants qui sont arrivés. Une autre nation s'est constituée. Elle est toujours en cours de changement. Mais il n'empêche que dans le souvenir collectif, la guerre de sécession reste sans aucun doute l'un des événements primordiaux de l'histoire nationale.
Merci André Caspier. Nous nous quittons justement après avoir écouté une chanson du Nord, bien sûr cette chanson sudiste, The Yellow Rose of Texas.
There's a yellow rose in Texas that I am going to see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I...
Je rappelle le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, André Caspi, La guerre de sécession, qui a été publié dans la collection Découverte chez Gallimard. À lire également un Que sais-je, La guerre de sécession de Jacques Néré, donc disponible aux éditions PUF, collection Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits du film Autant en emporte le vent de Victor Fleming avec Vivian Lee et Clark Gable, bien sûr, d'après le roman de Margaret Mitchell et qui est disponible en cassette chez MGM Home Video. Vous pouvez, vous le savez, écouter notre émission tous les jours pendant une semaine sur le site internet France Inter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques. Et puis vous pouvez également téléphoner pour tous ces renseignements au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Antoine Dabrowski, documentation Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Oh, now I'm going to find her, my heart is full of war.
Patrice Gélinet, que nous retrouverons demain nuit sur France Inter, sous les étoiles exactement, avec le troisième volet de ces histoires concernant l'Amérique. Demain, prochaine édition de 2000 ans d'histoire consacrée aux 8 ans de Bill Clinton à la Maison Blanche.
Je crois que tout est là pour une vie meilleure. Elle attend son heure, mais on oublie tout et puis on s'habitue aux histoires qui descendent dans la rue. Pourtant tout est là, inutile de chercher ailleurs. Tout est là, la liste des erreurs. Tout est là, les secrets du malheur. Mais on oublie tout et puis on s'habitue à l'histoire qui défile dans la rue. On se dit aussi que tout est joué d'avance, inutile de changer de cadence. On guette l'arrivée d'un ange qui nous montrerait le chemin vers un futur qui nous arrange. Alors que déjà, dans nos mains, tout est là pour une vie meilleure. Tout est là, elle attend son heure. Tout est là, on en a gros sur le cœur. Car la route est longue et bordée de snipers, tête vide, rivée sur le viseur. Et au bout de cette route, il y a toujours une lueur qui brille un peu plus à chaque fois. Qu'un homme s'y aventure pour voir si tout est là.
Itinéraire depuis hier, sous les étoiles exactement, sur France Inter, d'un Anglais du nom de Donald Crowhurst, né au début des années 30 en Inde, aux Indes, revenu adolescent en Grande-Bretagne après la guerre afin d'y poursuivre ses études. C'est un petit British de la middle class, passionné d'aviation, intelligent, trop intelligent sans doute, pour s'intégrer parfaitement au système éducatif de l'époque, pour s'intégrer aussi plus généralement à la société. Après la disparition de son père, créant, outre un chagrin évident de ne pas l'avoir assez bien connu, créant une situation de crise matérielle, Donald Crowhurst s'engage